et messieurs, bonjour, bienvenue à tous et à toutes et merci de nous choisir, merci de choisir toujours la 93.5. Quand il sonne 11h, vous savez que 11h c'est le coup à l'heure où le temps est toujours donné pour l'émission Club de la Presse et bien sûr nous donnons ainsi. Nous sommes au mercredi 24 juillet 2024 et nous sommes dans le troisième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte à l'heure de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou-Vitok-Betomega est à la mise en onde, Gérard Akoucha sur la mise en ligne, je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo, grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpame, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabao. Vous le savez très bien, vous avez le privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à notre chaîne YouTube et aussi Facebook et également nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat, l'analyse sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, ils sont déjà en place. Alors Fabrice Patom-Petezi, bonjour.
Bonjour à toi, bonjour aux confrères ici présents, bonjour également à tous ceux qui nous écoutent.
Bien démarré la semaine ?
Oui, ça va.
Dieu merci. Toujours commandant, je pense que le grade n'a pas changé, il est toujours avec nous, toujours fidèle hein, aussi. C'est Abbas Issaka, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs et autrices de la radio et bonjour aux confrères en studio.
Je ne sais pas, entre-temps, le grade a changé ?
Non, pour le moment non.
C'est toujours commandant. C'est
toujours commandant, on D'accord. attend. On va espérer.
Espérons, justement. Alors, il y a William Abel aussi qui est avec nous. William, bonjour.
Pascal, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs.
Voilà ton micro, je pense que... Voilà, William, bonjour.
Bonjour Pascal.
Voilà, bonjour à tous les auditeurs. Il semble que ton micro a un petit souci. Je vais te prier alors de te déplacer pour ici. Alors, on sait très bien que quand Abel William est avec nous, c'est Santé Éducation qui est avec nous. Et nous sommes au mercredi. Vous comprenez sans doute que déjà le journal Santé Éducation est dans le kiosque hein, ce mercredi. Abel, rebonjour.
Pascal, oui, bonjour.
Voilà.
Bonjour à tous les auditeurs de Canal FM et bonjour aux confrères ici présents.
J'espère que tu as bien démarré la semaine.
Oh, grâce à Dieu pour toutes choses.
D'accord, c'est l'essentiel. Rendons toujours grâce à Dieu pour la vie, la santé que nous avons. Alors, et déjà, santé, parlons-en. Et vous parlez dans santé, éducation aujourd'hui, alors de remèdes naturels et surtout contre la toux. Et la toux, vous spécifiez bien, la toux sèche, parce que ces moments-ci... il y a la fraîcheur qui est là, il y a la mousson qui est là, et ce qui crée même d'ailleurs aussi la toux au niveau des compatriotes. Et finalement, vous nous proposez 4 remèdes naturels à base de miel contre la toux sèche.
Exactement, nous sommes dans la mousson, il y a cette fraîcheur-là qui est là, et beaucoup de personnes subissent des épisodes de toux, des quintes de toux, comme on aime si bien le dire, et... Pas seulement la toux, mais la toux sèche. Et c'est quoi la toux sèche? La toux sèche, et d'abord, elle est douloureuse et puis elle est gênante. Donc, et on peut aussi voir que si quelqu'un a la toux sèche, elle a des difficultés même à respirer ou bien même à avaler. Donc, c'est quoi la toux sèche? La toux sèche, c'est une toux qui, contrairement à la toux grasse, ne produit pas de mucus. Donc, il n'y a pas... d'expectoration, il n'y a pas de mucus. Donc, ça a des causes multiples, des causes très variées. Et cette toux-là a tendance, bien, rend la gorge irritée. Il y a de l'irritation au niveau de la gorge. Et elle est gênante. Et elle peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Et donc, si quelqu'un a la toux sèche comme ça, il faut qu'il consulte un médecin. Mais nous... voulons soulager, nous voulons traiter ou bien soigner cette toux et nous avons recommandé le miel. Pourquoi le miel? Le miel, c'est un ingrédient, c'est un aliment recommandé en fait en cas de toux, toux grasse comme toux sèche. Pourquoi? Parce que le miel, d'après plusieurs études scientifiques prouvées, le miel a des propriétés antibactériennes, antimicrobiennes et antioxydantes. Le miel hydrate en fait la gorge. Le miel a cette efficacité à soulager les symptômes de la toux sèche. Donc, dans cette parution, nous avons proposé 4 recettes maison que l'on peut faire facilement à base de miel pour que quelqu'un qui a la toux sèche puisse voir son état et être amélioré par rapport à ça. Donc le miel atténue la gravité ou bien la fréquence de la toux sèche. Donc, et pour finir, en recommandation, si nous avons une toux qui dure plus de 2 semaines, attention, il faut aller consulter.
C'est très important.
Très important.
Voilà, quand déjà la toux dure pratiquement 2 semaines, il faut aller consulter alors son médecin, ou du moins il faut aller se faire consulter, comme cela se doit. Alors vous vous intéressez également à la toux, hein, et vous parlez cette fois-ci alors des médicaments, et vous dites bronchite et toux, quand prendre alors les médicaments?
Oui, exactement. Nous ne voulons pas que le citoyen lambda aille vers l'automédication. C'est vrai, quand on est sujet à la toux, beaucoup prennent des médicaments, beaucoup les médicaments de rue, on peut aller à la pharmacie sans ordonnance, mais c'est une alerte qu'on donne. Quand on a la toux, attention, oui, il faut prendre des médicaments, mais comment? Vous savez, quand on a la toux ou bien la bronchite, le traitement dépend en fait de la cause sous-jacente. Donc, il faut déjà consulter un médecin, un professionnel de santé. Donc, c'est lui qui pourra, en fait, faire le diagnostic, voir, évaluer dans quelle mesure il faut prendre le médicament, quel genre de médicament il faut prendre, quelle posologie, quelle dose il faut prendre pour contrer ou bien pour éviter cette toux-là. Et l'autre chose, c'est qu'il faut également suivre les recommandations du médecin. Parce que on commence bien le traitement et après, on arrête le traitement. Donc, il faut suivre scrupuleusement les conseils du médecin quand on a la bronchite, quand on a la toux. Parce que, attention, la toux peut se compliquer quand on ne suit pas cette recommandation. Il y aura des complications à la longue quand on arrête le traitement sans avertir le médecin.
Alors, donc, on se dit, mais écoutez, c'est une simple toux que j'ai. Et donc, il suffit simplement alors d'aller acheter un médicament et rapidement, ce serait fini.
Non, attention à ce genre de propos, parce que la toux, elle peut avoir des complications à long terme. Beaucoup ne le savent pas. Donc, il ne faut pas prendre le médicament pour les prendre. Il faut toujours consulter un médecin qui va évaluer, qui va voir, qui va diagnostiquer quel genre de toux vous avez afin de vous prescrire le médicament approprié.
Voilà. Il est très important alors de consulter même d'ailleurs le médecin.
Et également, quand sur le traitement, il y a des mesures supplémentaires. Il faut beaucoup se reposer et il faut boire beaucoup et surtout avoir une alimentation variée, saine et puis équilibrée.
D'accord. Alors, restons toujours dans le cadre alors de la toux, et vous écrivez aussi rhume ou mal de gorge. Faut-il prendre les antibiotiques? C'est une question que vous vous posez, mais moi je vous retourne la question. Est-ce que c'est important quand on sent du rhume ou le mal alors de gorge, est-ce qu'il faut forcément prendre alors des antibiotiques?
Comme vous le dites, on est encore dans les médicaments et vous savez, le mal de gorge, mais le rhume peut être causé aussi par différentes situations, différentes conditions. Et la nécessité de prendre les médicaments est aussi liée, mais elle dépend de la cause et sous-jacente. D'après plusieurs études, quand il s'agit des infections bactériennes, par exemple, la prise d'antibiotiques n'est pas nécessaire.
D'abord.
Donc, en fait, je rectifie, s'il vous plaît. Donc, d'après plusieurs études, quand il s'agit des infections bactériennes, la prise d'antibiotiques peut être nécessaire.
Tout à fait.
Voilà, ça peut être nécessaire. Quand il s'agit des infections bactériennes, donc la prise des antibiotiques peut être nécessaire.
Voilà.
Mais quand il s'agit des infections virales, voilà. Donc là, on peut comprendre que la majorité des maux de gorge sont causés par des virus,
voilà,
comme le rhume, bien la grippe. Donc, dans ces cas, les antibiotiques ne sont pas efficaces et ne sont pas recommandés, car d'après plusieurs études, ils ne traitent pas les infections virales. Ça, c'est les études qui le démontrent. Donc, voilà un peu les deux cas. Maintenant, autre cause, par exemple, pour le mal de gorge, mais le rhume, on peut comprendre que cette cause aussi peut être liée peut-être à l'inhalation de la fumée d'une cigarette, par exemple. Voilà. dans des allergies et, ou bien autre cause, quoi. Donc là, le traitement dépend également de la cause et de la cause spécifique. Donc, il est important de toujours voir un médecin pour diagnostiquer la cause et prescrire le traitement adapté.
Voilà, parce que le médecin est là pour ça et il faut tout simplement aller voir son médecin ou aller voir le médecin et rapidement, le diagnostic se fera et après tout, il y a un médicament qu'on va te prescrire pour que tu arrives à éradiquer alors ce mal. Alors, nous allons finir avec des aliments pour booster les défenses immunitaires parce que quand on parle de la toux, des fois, ça agit également sur le système immunitaire et donc, vous proposez également des aliments pour booster les défenses immunitaires.
Oui, nous sommes en période de fraîcheur, l'immunité peut baisser, on peut être sujet aux infections comme au virus, comme on vient de le voir. Et quand vous savez qu'on est enrhumé, quand on a la toux, c'est tout le système qui en pâtit. Donc, tout l'immunité est faible. Donc, on a un système immunitaire affaibli. Et quand le système immunitaire est affaibli, on est à risque de plusieurs infections, des difficultés à guérir, des infections, la fatigue, la fièvre persistante, des allergies par ici. Donc, nous recommandons certains aliments qui peuvent booster, qui peuvent renforcer le système immunitaire. Donc, par exemple, les agrumes, le citron est là, c'est un super aliment qu'on peut consommer à longueur de journée. Le citron, c'est un merveilleux fruit. L'orange, la clémentine, la mandarine, donc tous ces agrumes participent en fait au renforcement du système immunitaire. On a des herbes sur le marché, la menthe poivrée qui est là également, qui donne du tonus, une tisane de menthe poivrée et à consommer le matin, le midi, et ça renforce le système immunitaire. L'ail, le gingembre, donc nous avons des épices également qui aussi peuvent permettre d'éliminer en fait ces allergènes ou bien ces bactéries. Donc ce sont des aliments que nous utilisons sur le marché et l'important c'est de les mettre en pratique à la maison pour avoir un système immunitaire en forme au top. Et attention surtout en cette période de fraîcheur, attention, des fois les gens abusent de l'alcool parce qu'il fait frais. Oui. Voilà, attention surtout à l'excès d'alcool.
Et je ne sais pas si vous avez fait aussi ce constat, hein, puisque avec cette fraîcheur, il y a cette fatigue musculaire et aussi des courbatures que les uns et les autres sentent. Je ne sais pas si c'est le système immunitaire. C'est vrai que vous n'êtes pas spécialiste alors du domaine. Je ne sais pas si c'est le système immunitaire que les aliments que vous avez cités tout de suite pourront également corriger quelque chose.
Oui, il y a un article dans la parution qui parle de ça, système immunitaire affaibli, quels sont les symptômes? Quand le système immunitaire est affaibli, voilà un peu les symptômes qu'on peut avoir. On a des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Donc, ces fruits qu'on vient de citer, mais ces aliments qu'on vient de citer aussi, participent et contribuent aussi à avoir un système immunitaire au top. Donc, il ne faut pas qu'on n'essaie de ne pas en consommer, il faut toujours que le système immunitaire soit renforcé.
Quand ce sont des aliments quand même qui sont apportés. Hein,
exactement. On a ça sur le marché. Donc l'essentiel, c'est de le consommer régulièrement parce que les fruits, les légumes sont de très bons aliments pour notre système immunitaire. Donc nous invitons tout Togolais lambda à comprendre que dans cette période de fraîcheur, notre système immunitaire peut en pâtir.
Peut être défaillant.
Donc, alimentation variée, saine et équilibrée et surtout, faire du sport. Il faut beaucoup bouger.
Et surtout faire du sport, c'est très important. Il faut bouger. C'est important. Abel, pour retrouver votre journal dans les kiosques ce matin, quelles sont les démarches à faire? Et puisque le journal, on peut le retrouver également en PDF. Et on peut l'acheter aussi en PDF, bien sûr. Donc, quelles sont les démarches?
Le journal est déjà disponible sur notre site www.centre-education.tg et la version PDF au prix de 500 francs qu'on peut télécharger et dans les kiosques déjà à 1000 francs dans les kiosques en version papier et on peut nous contacter sur le numéro 96 14 97 97 1091 79 47 07.
Abel William, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous et pour parler surtout de la santé, puisque comme on le dit d'habitude, la santé n'a pas de prix et il est très important quand même de préserver cette santé. Abel, merci d'être passé dans cette émission.
Merci Pascal.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et je suis avec mes confrères Fabrice Pétézi et Abassi Saka. Fabrice, rebonjour.
Alors, bonjour.
Alors nous commençons cette émission avec notre débat du jour, bien sûr, et avec ce sujet quand même qui fait la une également des réseaux sociaux et aussi enfin des journaux. Et je veux bien parler alors de cette attaque, hein, que la base du Togo, bien sûr, au nord du Togo, a eu tout récemment. Bien sûr que sur les réseaux sociaux, nous avons lu beaucoup de choses. Alors, sur cela, hier, c'est plutôt au niveau du Niger que c'est le Niger plutôt qui a demandé, enfin, qui a d'abord souhaité les condoléances quand même à tout et qui a donné l'information. Et c'est le général Tiani qui a demandé quand même au Togo alors de compter alors sur son soutien pour en quelque sorte lutter contre le terrorisme. Et c'est vrai, au niveau même d'ailleurs du gouvernement, c'est silence radio. Nous n'avons pas d'informations nécessaires alors pour cela. Tout d'abord, on présente quand même nos condoléances à la famille alors des forces de défense et de sécurité quand même qui sont décédées sur le terrain. Alors, Fabrice, au niveau du gouvernement, c'est silence radio. Est-ce que vous comprenez toujours cette stratégie de communication du gouvernement?
La comprendre, en partie je la partage, mais il y a certains éléments sur lesquels également il peut y avoir débat sur cette façon de ne pas communiquer, qui est aussi une forme de communication quand on s'inscrit dans la logique de l'école de Paulo Alto. Ne pas communiquer, c'est communiquer aussi. Alors, mais je crois que sur les questions des attaques terroristes, le Togo... On a pu le sentir à un moment donné, hein. Je crois que le chef de l'État même l'a dit dans une de ses adresses à la Nation, où le Togo a fait le choix de ne pas communiquer, même si par des moments, ils sortent pour faire un certain bilan par rapport aux pertes qu'on a pu essuyer. Et je crois que dans l'entretien que le chef de l'État avait eu, je crois qu'il y a un ou deux ans, il l'avait dit, même quand ils enregistrent des victoires, il ne veut pas en parler parce qu'ils estiment que ce n'est pas quand même quelque chose qu'il faut brandir et se réjouir, même si c'est des forces du mal qui sont combattues. Mais en ce qui concerne la dernière attaque, je crois que même s'il n'y a pas eu de sortie officielle de l'État togolais, on a quand même des éléments, que ce soit sur les médias internationaux et également cette sortie au niveau du Niger, qu'effectivement il s'est passé quelque chose à la frontière Togo-Burkina. Kwekwankandi, c'est un nom qui est familier aujourd'hui aux Togolais parce que la plupart des attaques que nous avons essuyées dans cette histoire de terrorisme, c'est beaucoup plus à ce niveau-là. Et comme tu l'as dit, on s'incline devant la dépouille mortelle de tous ceux qui ont perdu la vie à ce niveau-là et prier qu'il y ait quand même... des dispositions, on peut pas, mais je crois que dans ce discours aussi, le chef de l'État l'avait dit, c'est une guerre, et il faudra s'attendre également à perdre, essuyer également des pertes, même si on enregistre parfois aussi des victoires. Donc c'est un peu ça, la pratique dans une guerre. Il y a des jours où l'ennemi vous surprend et vous enlève des vies, malheureusement. On aurait souhaité que ça n'arrive pas, mais c'est des choses auxquelles il faut aussi s'attendre, même si ce n'est pas souhaité. Et donc, le Togo a été une fois encore attaqué. Pour l'instant, on n'a pas de chiffres exacts sur combien de victimes on a pu enregistrer.
Sur les réseaux sociaux, on parle de 12 morts, mais ce n'est pas officiel.
Oui, ce n'est pas officiel, donc... n'ayant pas des chiffres officiels, je crois que la prudence c'est de ne pas avancer, puisque les réseaux sociaux, on sait ce que c'est également. Mmh. Il y a du vrai, il y a également du faux. Mais le fait réel, le Togo a essuyé une attaque qui a entraîné des victimes. Bon, maintenant, tout le débat qu'il y a sur ce qui est arrivé, je crois que ce n'est pas la première attaque, je l'ai déjà dit, que le Togo a enregistré dans cette lutte contre la guerre, contre le terrorisme.
Mais est-ce que cette fois-ci, ce n'est pas parce que le dégât a été encore très très fort?
Oui, comme on l'a dit, on n'a pas encore les chiffres officiels. Sinon, par le passé aussi, on avait eu des attaques où on avait enregistré des morts. Après, il y avait eu une sorte de bilan que le chef de l'État avait fait en parlant de 30 morts, je ne sais plus c'est quelle année, il n'y a pas très longtemps quand même, à l'occasion d'une fête des indépendances où il présentait les condoléances aux familles. Et donc ça peut arriver, mais on souhaite que ça n'arrive pas, mais il faudra une certaine vigilance au niveau de nos forces. Et comme on l'a dit, c'est une guerre asymétrique, c'est difficile d'identifier comme cela l'ennemi, c'est un peu complexe. C'est cette lutte contre le terrorisme, puisque on ne sait pas réellement qui est l'ennemi dans ça, puisque tout le monde est mêlé. Vous allez voir, quand on vous explique un peu en lisant sur les réseaux sociaux et les retours que nous avons, quand vous voyez un peu la façon dont les choses, ils étaient en très grand nombre, et on peut se poser la question de savoir comment ce beau monde là peut traverser des villages et des villages sans qu'on envoie peut-être une alerte aux forces de sécurité et qui pour que peut-être ils s'apprêtent ou quelque chose comme ça. C'est un peu surprenant. C'est là où peut-être qu'il faut relancer le débat sur la collaboration de nos populations dans cette lutte contre le terrorisme. Parce que si on laisse, on pense que c'est seulement une affaire des forces de défense et de sécurité, je crois que on ne va pas gagner cette lutte-là. Il faut que tout le monde contribue de par les renseignements qu'il peut donner à qui de droit pour pouvoir peut-être limiter ces dégâts-là. C'est important parce que quand on ne renseigne pas, c'est pas des dieux. Les militaires, ils font leur boulot. Certes, ils sont payés pour ça, mais c'est pas des dieux. On ne dit pas que le Togo est en guerre contre le Ghana, le Burkina, où on sait que, bon, voilà, ils ont tel nombre de troupes, ils ont tel armement, on étudie tout cela. Non! C'est-à-dire que quand vous allez dans la région de Savannah, on vous explique la façon de... C'est-à-dire, vous restez, vous discutez avec quelqu'un, vous prenez une bière, il se peut que c'est un terroriste. C'est compliqué. C'est-à-dire que des gens qui renseignent sur la position des militaires et tout cela et autres... Ouais, bon. Donc, c'est arrivé, il faudra resserrer les coudes, appuyer également les forces de défense et de sécurité par les informations que nous pouvons donner pour qu'on évite cela.
D'accord. Abbas, c'est vrai que l'attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Jnim. Et au-delà, lors de cette attaque, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas très important quand même qu'on associe la population en lui donnant des informations nécessaires pour que, du moins, la population aussi puisse donner des renseignements aussi?
Je pense que cette population a toujours été associée, surtout avec les sensibilisations qui ont été menées dans les savanes. Il y avait un temps, lorsque le ministre Yah, qui était au ministère de la Sécurité, il allait sur le terrain, il appelait même ses concitoyens, les gens de la savane, de la région savane, il leur expliquait, les sensibilisait sur le bien fondé de la collaboration entre eux et les forces de défense et de sécurité. Lorsqu'il y a un relâchement, ça va profiter à ces genres de choses-là, parce que on se dit que peut-être qu'il y a des complicités là-bas, parce que les gens sont venus en grand nombre. Et ils ont traversé des villages à moto également. Ils viennent pendant près de 30 minutes, selon ce que nous apprenons. Ils ne disent rien.
Est-ce que ce n'est pas surprenant que déjà l'alerte n'a pas été donnée?
C'est surprenant, c'est ce que j'ai dit. Et Fabrice l'a soulevé tout à l'heure. C'est le manque de collaboration également. Donc maintenant, il faut intensifier la sensibilisation au niveau de ces populations-là. Aller leur dire que c'est votre vie qui sont en danger. Aujourd'hui, les gens sont des déplacés dans des villes. Dans d'autres, c'est leurs parents qui sont des déplacés. Et très souvent, quand ils arrivent là, c'est les jeunes-là, les mêmes jeunes de ces régions-là qu'on recrute. Et ils sont facilement prenables, manipulables. Et ils rentrent dans ces situations, dans ces genres de situations. Ils reviennent même pour tuer leurs propres parents. Donc c'est la sensibilisation qu'il faut continuer, accentuer la sensibilisation sur la collaboration entre les forces de sécurité, les forces de défense de sécurité et la population. En moindre chose, il faudrait alerter les autorités. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que le gouvernement n'a pas encore réagi, le gouvernement entend, ce n'est pas au gouvernement de réagir, c'est l'état-major des forces armées togolaises qui donne les informations au gouvernement. Aujourd'hui, on attend l'information officielle de l'état-major. Parce qu'entre-temps, lorsque ça a commencé, lorsque les informations allaient n'importe comment, c'est l'état-major des forces armées togolaises qui a rappelé tout le monde à l'ordre que désormais les informations officielles devaient provenir de l'état-major des forces armées.
Et finalement, l'état-major aussi ne donne plus les
informations. Il n'a pas, parce que ce n'est pas facile de donner comme ça. Il faut aller sur les lieux, voir ce qui se passe. Est-ce que réellement il y a eu 12 morts, ou il y a eu 15, ou il y a eu 9, ou il y a eu 10? Comment les attaques sont intervenues? Comment les gens sont venus?
Mais depuis le samedi, est-ce qu'on ne peut pas faire le recoupement de ces informations et donner cela rapidement?
Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Même toi, si tu es en tant que journaliste, tu vas faire des investigations, ce n'est pas en 3 jours que tu vas avoir tes informations nécessaires que tu as. Donc, on ne peut pas donner des informations comme on le fait sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont fait un constat. Maintenant, il reste à aller approfondir la situation, la position des autres. Mais ce que moi, j'ai dit, c'est qu'il faudrait qu'on continue la sensibilisation et sensibiliser la population là sur la collaboration entre elles et les forces de défense et de sécurité.
D'accord. Nous sommes rejoints par Sylvestre Béni. Sylvestre, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien.
Oui, ça va.
D'accord, nous sommes en train de parler de cette attaque terroriste que le Togo a essuyée, bien sûr, au nord, à Pakandzi, au nord du pays, bien sûr. Et cette attaque, c'est vrai que c'est le général Tiani du Niger qui présentait ses condoléances. Alors, au Togo, c'est là où nous avons eu vraiment une confirmation alors de cette attaque. Est-ce que ce n'est pas aussi surprenant que c'est l'autre pays qui nous donne plus l'information?
Non, surprenant, je dirais non, puisque au tout début donc de cette crise sécuritaire, le gouvernement togolais, du moins l'État togolais, a choisi de ne pas communiquer. Donc s'il ne communique pas et que c'est par un pays ami du Togo qu'on l'a, donc je crois que c'est de bonne guerre, du moins pour la presse, ça nous permettra donc de faire assez de recoupements pour écrire sur le sujet. Mais à l'allure où vont les choses, je crois que l'État togolais doit véritablement abandonner sa stratégie de ne pas communiquer. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à une ère, à une période où il faut cacher l'information. Voyez-vous. Et là, je profite même de l'occasion pour saluer quand même le professionnalisme des confrères, puisque presque, à moi seul, je m'abuse, 90% des journalistes ont les vidéos, ont quand même malheureusement le corps donc, de nos soldats qui sont décédés. Il y a les vidéos, les images qui sont là, mais aucun d'eux n'a publié cela. Même si les gens ont communiqué sur l'attaque, ils ont pris juste une photo qui n'a pas aucun rapport pour illustrer. C'est là où je salue quand même le professionnalisme. Et puis, je confère aussi un autre constat au niveau également des réseaux sociaux. Et beaucoup se gardent aujourd'hui de publier lors donc de nos forces de l'ordre qui sont tombées. C'est vrai que ça se donne par inbox, mais plus sur les plateformes qu'on a l'habitude de le faire au tout début donc de l'attaque. Donc ça veut dire qu'on prend conscience véritablement donc de la mesure. Maintenant, sur la communication, je crois que l'État togolais doit sortir quand même de ce silence-là, parce qu'il ne peut plus. Aujourd'hui, déjà, avant-hier, moi j'ai déjà la vidéo même de l'attaque. Voyez-vous. Et sur certaines plateformes, vous pouvez même les retrouver avec ces autres hommes-là qui sont venus et qui tiraient et tout ça, même en plein jour, on les voyait, il y a l'un d'eux qui filmait même d'ailleurs. Vous voyez, donc si l'État togolais se tait, de l'autre côté, on aura, quel que soit les cas, on aura donc les éléments. Maintenant, il revient à l'État togolais de situer beaucoup plus pour que ça ne part pas dans tous les sens. Voyez-vous, en parlant donc de 12 mois, je crois que c'est sur les images que les gens ont compté. Vous voyez, c'est sur les images donc des forces amies qui sont tombées. Quand vous comptez, donc vous aurez donc ce nombre-là. Voyez-vous, c'est pourquoi je dis qu'il faudrait maintenant plus communiquer. De l'autre côté, ils ont montré ces forces du mal là qui nous ont attaqués. Ils ont montré des images que j'ai même suivies sur une chaîne internationale ce matin. ils ont montré les images, et puis l'armement qu'ils ont récupéré du Togo. Ça peut être également une mauvaise communication de leur part, pour dire qu'on a fait subir donc plus de pertes au Togo. Donc, voyez-vous, donc si nous, à notre niveau, on nous disait réellement, peut-être l'armement, peut-être que ce n'est pas au Togo qu'ils l'ont pris, ils l'ont pris ailleurs, mais ils ont montré dans leur vidéo pour dire que c'est au Togo qu'ils l'ont pris. Donc, il revient au Togo donc, de plus nous situer pour qu'on soit véritablement donc, dans on se situe mieux donc, dans nos articles. Donc, l'autre chose, c'est que, vous savez, pour ce poste, la même poste a été attaqué l'année dernière à la même période. Le poste de Pekpa Kandi. L'année dernière à la même période, ce poste-là a été attaqué. Et donc, je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris des dispositions pour anticiper? Bon, c'est des questions qu'on se pose. C'est vrai que nous ne sommes pas donc en stratégie militaire, tout ça, mais on se dit, oui, en cette période, nous avons subi donc des pertes, donc mieux se préparer pour anticiper. Et lorsque vous voyez les vidéos, ce sont des gens qui sont à l'aise, qui viennent en moto, l'un des mains, ils allaient, ils revenaient, ils s'étaient même été en sadalé, tout ça. Mais tout ce grand monde-là a pu traverser la frontière et que nos éléments ne sont pas au courant. C'est là où je parle donc du service de renseignement. Oui, le service de renseignement, c'est à cette période qu'on doit véritablement donc évaluer leur efficacité. Tout ce grand monde-là puisse tracer la frontière de Pekpa Kandi, attaquer donc une base et que personne ne soit au courant. Et pourquoi est-ce que on n'a pas pris ces messieurs-là aussi en chasse? Ils étaient là tranquilles. J'ai vu les vidéos, franchement, j'ai été navré. Ils étaient là tranquilles. Supposons qu'il y ait un renfort, je crois qu'il n'y aurait même pas un qui soit resté parmi ces forces-là. Donc, il faudrait véritablement qu'on puisse...
Oui, Fabrice. Non, je crois que c'est un peu cela. C'est-à-dire que la façon dont ils sont arrivés... Alors, quand vous observez les choses, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ils ont pu s'imposer parce qu'ils étaient très nombreux. Ouais. Et donc, aujourd'hui, il est difficile les nôtres ont riposté. Les nôtres ont riposté. Mais ils étaient tellement en grand nombre qu'ils ont été submergés. C'est là aussi il faut, en parlant de renseignement, rien ne dit que les gens n'avaient pas d'enseignement. De toutes les façons, tout le monde sait que c'est une zone hostile où tout peut arriver à tout moment. Pourquoi en cette période, oui, on peut se préparer en juillet, ils viennent en septembre ou ils viennent avant. Bon, il y a eu une coïncidence par rapport. Mais et comme je le dis, c'est pas des guerres conventionnelles qu'on a connues ou
des guerres classiques.
Bon, des guerres classiques où on dit bon, l'ennemi peut-être vient de ce côté, il a ce treillis, on le reconnaît. Parfois c'est des populations civiles, c'est-à-dire des gens que vous croisez pratiquement
chaque jour,
et à un moment ils se transforment. Ils se mettent dans la peau du terroriste pour semer cette psychose-là. Et donc, c'est aujourd'hui la question du renseignement. Moi, je parlerai plutôt d'informateur, parce qu'en réalité, bon, le renseignement est à un niveau un peu plus élevé. Mais les informateurs que nous sommes, vous savez, aujourd'hui, dans certains pays, surtout en Occident, tout le monde est informateur. C'est-à-dire, à chaque fois que vous constatez quelque chose d'anormal, dans votre entourage, tout de suite vous appelez la police, la gendarmerie, pour dire, quitte à ce qu'ils viennent et qu'ils se rendent compte que, bon, c'était rien de grave. Moi, j'ai une petite anecdote comme ça où j'ai un neveu qui étudiait en France et qui allait tous les midis, parce qu'il avait un problème en famille, tous les midis prier dans une église. Il avait 19 ans. Et un matin, c'est la police qui est venue l'encercler. C'est une vieille qui a alerté qu'il y a un jeune qui vient régulièrement. Puisque chez eux, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des jeunes qui viennent prier à des jeunes. On est venu l'encercler et il a fallu qu'il explique. Et puis bon, finalement, on s'est rendu... Ben, et il disait qu'il se radicalisait. C'est-à-dire que c'est bizarre de voir un jeune venir à des heures, 11h midi, comme ça, dire qu'il prie.
Déjà, le comportement est suspect,
c'est ça. Surtout qu'il est noir, on se disait, peut-être qu'il se préparait, il préparait un attentat. C'est une vieille qui a alerté qu'il y a un jeune qui vient régulièrement. Et ce jour-là, quand il est venu, la police est venue et il a dû s'expliquer. Et puis, donc, c'est un peu cela. C'est-à-dire que si on ne renseigne pas sur ce qu'il y a de plus ou moins, on ne nous dit pas d'agir nous-mêmes. puisqu'on n'a pas été formé pour ça, pour ne pas accuser qui que ce soit. Mais si vous constatez quelque chose d'anormal, d'étrange dans votre entourage, il faudra peut-être alerter, quitte à ce qu'on se dise non, en réalité, bon, ce n'était rien et tout cela. Maintenant, pour finir, par rapport à la communication, vous savez, comme il le dit, la communication sur les actes terroristes est très délicate. Vous savez, eux aussi, quand ils commettent ces actes-là, après, ils sont à l'écoute et ils attendent. Eux-mêmes ignorent peut-être combien ils ont tué. Ils attendent. Ils écoutent les médias. C'est pour cela, au niveau des médias, moi, j'ai fait un travail de recherche en master sur la question de la couverture médiatique des attaques terroristes. Comment la presse écrite togolaise traite cette information. C'est-à-dire que si vous ne faites pas attention de manière involontaire, vous allez servir la cause terroriste par les publications que vous faites. Et je salue un peu le constat que le confrère vient de faire en disant les images choquantes et toute cette publication-là, on n'a pas senti ça trop dans les journaux. C'est un peu cela. Oui, on a l'obligation de donner de l'information, mais il faudra également, en donnant cette information, éviter de servir de canaux de communication aux terroristes qui aussi ont besoin des médias pour attirer de la visibilité sur l'acte qu'ils ont posé, puisqu'en réalité, au finish, c'est de semer la psychose. Et au niveau d'un État qui communique sur les attaques terroristes, il y a la psychose aussi, elle est là, et qu'il faut éviter. Mais au même moment, on est confronté à un dilemme. Alors, est-ce qu'il faut faire un omerta total là-dessus et ne rien dire aux gens, ou alors en parler et entraîner certaines psychoses? Il faut trouver le juste milieu pour ne pas servir la cause terroriste, mais également permettre aux populations d'être informées sur ce qui se passe.
D'accord. Oui, Abbas, est-ce qu'aujourd'hui, c'est notre pays qui est attaqué, hein, le Togo? En tant que journaliste, nous sommes aussi des patriotes, nous sommes aussi des citoyens. Et au-delà de tout, est-ce qu'il ne faille pas aujourd'hui mettre à contribution les journalistes aussi pour ce travail de sensibilisation et de prise de conscience?
Oui, il y a ça aussi. J'ai dit tantôt qu'il y a les sensibilisations qui sont à l'endroit. Il y a aussi les médias qui sont dans les savanes utilisés pour sensibiliser. J'ai parlé de l'accentuation de ces sensibilisations. Puisque c'est déjà des proies faciles qui sont les jeunes qu'on recrute dans ces zones-là. Lorsque vous prenez ce qui se passe au Burkina Faso ou au Mali, c'est des jeunes qui sont recrutés, des jeunes de la même localité qui sont recrutés, qui tombe facilement dans le gain pour aller servir cette cause-là et venir même s'attaquer à leurs parents. C'est pour ça que je parle de sensibilisation accrue, accentuée. On a l'impression que peut-être qu'il y a eu un relâchement au niveau de la sensibilisation, et ça fait que ça a permis à ces gens-là de pénétrer facilement également le Pekpakandi pour venir attaquer les gens pendant même des minutes, sans que personne ne réagisse. Le renfort était arrivé très tardivement, pendant que les dégâts sont déjà commis. Donc, aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Si on peut l'accentuer et impliquer beaucoup plus les médias, comme tu le dis, les médias vont accompagner le gouvernement dans cette sensibilisation. Il faudrait qu'on fasse cette guerre-là. C'est une guerre asymétrique. On ne sait pas qui est qui. Parce que, selon même les explications qu'on a eues, c'est des gens, quand vous les repoussez, ils restent un peu quelque temps pour se réorganiser et ils viennent commettre des gaffes et ils vous tuent. Après, ils retournent. Parce que ce qui s'est passé, on ne sait pas comment les choses ont été faites et puis ils sont venus, ils ont attaqué. Il n'y a même pas eu une poursuite. On n'a pas organisé une chasse pour dire qu'on les retrouve. Et ils sont repartis facilement avec leur moto, à dos de leur moto, ils repartent. On dit qu'ils ont récupéré certains de nos armements. On ne sait pas si c'est le cas. C'est pour ça que peut-être l'état-major est en train de faire des enquêtes pour nous donner, nous informer exactement sur ce qui s'est passé.
D'accord. Donc
maintenant, c'est la sensibilisation et sur la collaboration et demander aux jeunes de ne pas tomber dans le piège de ces terroristes.
D'accord. Merci beaucoup. Chers confrères, nous allons quitter le sujet. On va s'intéresser à cette, à ce sujet politique. Nous savons que le samedi dernier, bien sûr, il y a un mouvement politique qui a été lancé. C'est le Mouvement National pour la Libération. Et il y a le journal Le Messager qui est revenu sur le sujet. Le journal qui titre « Création du MNL entre hypocrisie et manœuvre dilatoire ». Alors, déjà, Sylvestre, vous aussi, la manchette, hein, vous titrez sur le sujet « Lutte de libération nationale, le renfort vient de Paris ». Alors, c'est en quelque sorte votre article, bien sûr. Alors, dites-nous, c'est un renfort qui vient de Paris, c'est ça?
En réalité, c'est cela, c'est cette manière que nous avons quand même analysé la situation, parce que si on pense sur le plan local, il y a beaucoup qui ont tendance donc à croire une fatalité donc de la lutte, parce que ça fait plus d'une trentaine d'années qu'ils sont donc dans cette lutte là pour la conquête du pouvoir et son exercice. Et nous savons à chaque fois cela se sorte presque par un échec, ou disons un échec, parce que lorsque vous êtes donc en quête donc d'un résultat et que vous n'arrivez pas à ce résultat là, je crois que la meilleure manière de le dire, c'est un échec. Et donc, c'est vrai que beaucoup n'ont pas abdiqué, puisque je l'ai souvent dit qu'un peuple qui aspire donc à quelque chose, tant que ce peuple-là n'obtient pas le résultat, ce peuple-là n'abdique jamais. Et donc, oui, on en était là quand d'autres Togolais, fils donc de ce pays, qui sont beaucoup plus dans la diaspora, et ont jugé bon également donc de mettre en place un front ou une coalition où on peut, ça dépend donc de tout
un mouvement politique.
Un mouvement politique, un Freedom Togo qui est un mouvement donc de la libération nationale qui se propose également donc d'apporter donc leur pierre à l'édifice. Pourquoi pas? Dans le jargon courant, on dit trop de viande ne gâte pas la sauce. Là, ce bon moulin des sucres, vous voyez. Je sais pas s'il y a une autre manière de le dire, mais voilà quoi. Si d'autres Togolais aussi ont compris que, voilà, ceux qui sont peut-être sur le terrain commencent à s'essouffler, donc ils se disent, voilà, il faut maintenant apporter également leur pied. Je crois qu'ils sont les bienvenus. Et lorsque vous prenez ces trois personnalités, vous prenez le Kofi Annan n'est plus à présenter. Il n'est plus à présenter. Vous prenez Jean-Sylvanus Olympio. Lui, peut-être que un peu, il n'est pas trop bien connu par les Togolais, mais si on se rappelle donc de 2021, c'est lui qui est donc le premier Togolais à demander ouvertement au gouvernement français de déclassifier donc les archives officielles pour en savoir plus sur la mort donc du premier président togolais assassiné. Je veux pas donc de Sylvanus Olympio. C'est de là que bon oui les Togolais commencent donc à avoir une idée donc de la personne qui est présentée comme un neveu du premier président togolais, le seul démocratiquement élu au Togo. Et donc vous passez l'officier de gendarmerie François Akilé Sobokor, on le connaît de part aux histoires donc de 2005 et tout. Donc voilà, ce sont des gens qui sont connus. Ils sont connus également au niveau donc des officines diplomatiques. Donc vous savez, une lutte se joue et sur le terrain également au niveau donc de la diplomatie. Donc s'ils veulent apporter leur pied, je crois qu'ils sont les bienvenus.
D'accord.
Pour renforcer donc les locaux. Voilà.
Ok. Fabrice, vous avez appris aussi la création alors de ce mouvement. Quelle analyse vous faites alors de cette initiative?
Oui, le sujet nous a intéressé. Nous l'avons abordé également dans la parution du jour en faisant un focus beaucoup plus sur celui qui semblait être le cerveau de cette nouvelle coalition, notamment Kofi Annan. Qu'on ne présente plus, qui a tenté une candidature à la présidentielle en 2010, je crois, où il a été recalé pour
2005
et 2010. Oui, pour un souci au niveau de son acte de naissance avec son sursaut Togo, qui a eu à placer des députés à l'Assemblée nationale togolaise. Et entre-temps, c'était l'hibernation totale, on n'entendait plus parler. Et je crois que le débat autour de la nouvelle constitution qui bascule le Togo dans la 5e République l'a réveillé de son sommeil. Alors, l'initiative en elle, moi, je me dis, que tout ce qui a été fait, le vote de la constitution, l'élection, tout ça, c'est des actes politiques. Et naturellement, le Togo est un pays où politiquement, on peut s'organiser comme on peut. Alors, ça aurait été surprenant quand même que tout le monde croise les bras devant tout ce qui a été fait. Il y en a qui ne sont pas d'accord, c'est leur droit. Il y en a qui ont applaudi, c'est aussi leur droit. Là où c'est intéressant par rapport à cette coalition, au début, c'est vrai que je m'interrogeais sur peut-être les moyens d'action. Qu'est-ce qu'elle va faire, puisqu'on a connu beaucoup de coalitions par le passé? Qu'est-ce qu'elle va faire exactement? Alors, mais avec une interview la dernière fois sur RFI, on a plus ou moins une idée de ce qu'ils veulent exactement faire. Alors, dans tout ce que Kofi Annan a dit, je n'ai entendu nulle part où on projette une rébellion armée. Et donc, c'est des moyens politiques qu'ils veulent utiliser. Ils ont dit qu'ils vont réserver, ils vont accueillir désormais les membres du gouvernement dans les conférences et tout cela. Et forcément, qu'ils iront dans les représentations diplomatiques expliquer, donner le vrai visage du Togo pour reprendre Kofi Annan. Tout ça, c'est de la guérilla politique. Et pour moi, je crois que dans un pays démocratique, c'est autorisé. À part c'est ceux qui cherchent à prendre les armes, peut-être qui sortiront du cadre politique. Ici, c'est une attitude politique, que ce soit par rapport à cette coalition. Maintenant, l'efficacité de ce qu'ils veulent faire. Moi, je vais pas jouer les Cassandres pour dire que ça ne marchera pas. J'attends de voir. Mais je me rends compte tout simplement que généralement, un combat politique qui est mené de l'extérieur a très peu de chances de prospérer. Il y a plein d'exemples aujourd'hui. Tous les leaders qui ont pris la fuite, qui sont allés à l'extérieur, ont pratiquement perdu le combat. Je prends le PNP dont le leader est à l'extérieur. Entre-temps, Agbeyome qui est revenu pratiquement pas vivant, et Kofi Annan qui a passé toute sa vie en Europe, François Bokko qui est connu du régime togolais pour avoir été un ministre de Yadema et qui est parti à la veille des élections de 2005, et puis Olympio dont on ne connaît pas trop, bon, on dit qu'il est le descendant du premier président, ouais, politiquement c'est pas un foudre de guerre. Alors maintenant, ces initiatives venant de l'extérieur, je ne crois pas tellement, parce que pour moi, quand c'est en interne, ça a plus d'impact. Parce que même quand vous interrogez l'histoire sociopolitique de notre pays, les libertés obtenues dans les années 90 avec la démocratie et autres, ceux qui ont réussi vraiment à le faire, c'est des gens qui étaient au pays. Je vais citer les feux à Goïbo et autres. C'est eux qui ont mené le combat en interne pour pouvoir provoquer des changements. Et malheureusement, effectivement, ceux qui sont revenus de l'extérieur, la mayonnaise n'a pas trop pris. Mais de l'extérieur, et puis surtout aujourd'hui, on voit juste plus de choses sur les réseaux sociaux. Mais dans l'impact sur ce qui se passe en interne, je reste un peu dubitatif par rapport à l'efficacité des actions extérieures.
D'accord. Abbas, comment vous appréciez quand même cette initiative, ce nouveau mouvement qui est mis en place?
Non, moi je me dis que c'est la démocratie. Parce que s'il y a une chose que tout le monde regarde dans la même direction, on ne peut pas parler de la démocratie. Chacun est libre de s'exprimer. Et c'est leur expression, à leur manière. Même en interne, on a aussi des gens qui sont conçus. Il y a ce qu'on appelle front contre la constitution. Il y a certains qui ont appelé constitution zéro.
5.0.
Oui, donc tout ça là, c'est des manifestations qui se font. Maintenant, ce que moi je dis, un mouvement qui va mener le combat sur le sol togolais, qui est lancé à Paris, en Europe, en France là-bas, est-ce que c'est Paris ou bien la France qui va servir de base arrière pour eux? En principe, lorsque ils ont vu qu'il y a des mouvements qui sont déjà ici, en train de faire la contestation, et qui veulent le faire, appuyer ces mouvements-là, ceux-ci devaient venir ensemble avec ces gens-là, vous lancez le mouvement et ça va marcher. Parce que nous avons vu que ça a commencé par prendre à un certain niveau pour dire que la Constitution, certains qui disent que la Constitution, là, ils ne veulent pas, la 5e République, ils ne veulent pas. Mais des gens qui sortent, trois personnes qui sont là et en Europe.
Et qui sont bien connus.
Ils sont bien connus, mais ils ne sont pas totalement bien connus. Ils sont connus.
Pas
depuis
totalement
qu'ils étaient connus. Là ici, ils sont connus. Maintenant, ils sont partis. Et ils veulent lancer cela, même s'ils sont connus là.
qui viennent ici, ils viennent au Togo, ils appuient ceux-là qui sont déjà là, qui ont déjà lancé le mouvement. Il y a le Front Togo debout qui a commencé la lutte avec les manifestations, les meetings qu'il organise pour sensibiliser aussi les gens. Il y a encore...
Ne touche pas à ma constitution.
Ne touche pas à ma constitution qui est là. Il y a un autre mouvement aussi qui a été créé. Mais dans ce même sens, si vous voulez créer, venez aussi au Togo. Vous appuyez, vous lancez le mouvement. Et je crois que ça va partir. Parce que en 2017, quand Tchadam voulait lancer son mouvement, il a commencé à l'intérieur du pays ici. Ce n'est pas quelque part qu'il est resté. Et les objectifs, bien sûr, leurs objectifs, ce qu'ils ont dit, ce que moi j'ai écouté sur RFI, que Kofi Annan a raconté, c'est que c'est des actions qu'ils vont mener là-bas en Europe lorsque il y aura des visites. Les ministres ou bien les autorités togolaises vont se retrouver là-bas. Partout ils seront, c'est qu'ils seront humiliés, ils seront chassés.
Non, ça, il a dit qu'ils seront bien accueillis.
Ils seront bien accueillis.
Voilà, il a dit qu'ils seront accueillis.
C'est le terme.
Oui.
On a déjà vu ça en 2017.
Quand ils sont bien accueillis, on a déjà...
C'est ça, c'est le terme. Bien accueillir quelqu'un, ça va le faire changer quelque chose ici, la constitution ici, ou bien la 5e République ici. Alors qu'il y a les mouvements sur le terrain, on a vu ce qui s'est passé entre-temps où les gens disent que vous ne pouvez pas rester à l'extérieur dans le froid là-bas et nous continuons la lutte pour que vous venez bien rester sur le lit que nous avons dressé.
Vous êtes aussi du même avis que non, ces trois personnalités doivent venir au pays pour faire la lutte.
Non, pas forcément. Ce n'est pas parce que Kofi a fait ça ici qu'il faut forcément le faire ici. Et lorsque vous écoutez bien donc ces trois messieurs, en fait, c'est un creuset national qui veulent, parce qu'ils parlent donc de l'union sacrée. Et depuis quelques jours, vous verrez que beaucoup de mouvements qui sont donc dans le sens de la lutte se rallient, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils épousent en fait leur philosophie et ils vont travailler ensemble. Ouais, vous savez dire que ça n'empêche ceux qui sont sur le territoire peuvent un bon matin dire oui, nous accueillons donc favorablement l'initiative donc de ces trois personnes là, quoi que nous sommes sur le territoire. Donc voilà, et ça devient un creuset national pour faire donc face donc au régime. Et puis lorsque vous voyez un peu, vous lisez un peu le discours donc de François Bocco quand il terminait, il disait que aucun d'entre nous ne peut le faire seul. En reprenant un peu Nelson Mandela, aucun d'entre nous ne peut le faire seul. Donc il faudrait que nous soyons dans une mutuelle commune. Il faudrait qu'on fasse l'union sacrée et pour conclure la lutte. Et depuis, ce discours-là n'est pas aussi nouveau. Vous avez vu que même les populations demandent à ce que l'opposition soit unie. Il faudrait qu'on soit dans une dynamique unitaire pour affronter donc le régime. Et si c'est d'autres, ces trois-là, deux jaillissent peut-être la lumière que beaucoup vont épouser, pourquoi pas? Non, je crois que il faudra pas polémiquer sur le fait que s'ils l'ont pas lancé ici. Non, des mouvements peuvent être lancés ailleurs, mais qui auront des effets sur le territoire
sur
national.
Le territoire. Alors, Fabrice, c'est vrai que ces derniers temps, celui Abbas parlait entre-temps lors de l'expression démocratique, c'est ces derniers temps celui qui s'exprime également plus, c'est bien le député sénégalais Sagna. Et Sagna, il est écouté ces derniers temps avec même d'ailleurs ses réactions dans les rencontres du Parlement de la CDAO. C'est quelqu'un quand même. Déjà, quand on lit la une alors de Sylvestre ou la Machette ce matin, Sylvestre, vous écrivez « Parlement de la CEDEAO, Guy Marus, Sagna, vous allez devoir me souffrir ». Alors, Fabrice, finalement, c'est quelqu'un qu'on écoute et quelqu'un qui dit aussi ce qu'il pense.
Ben, tout le monde dit ce qu'il pense. Il n'y a pas que lui seul qui dit ce qu'il pense. Il y a pas... Moi, je viens de dire ce que je pense. Sylvestre vient de faire de même. Et au Parlement CEDEAO, chacun dit ce qu'il pense. Et je crois que ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Et ce que l'Ivoirienne aussi a dit, c'est ce qu'elle pense. Mais là où, ce que je reproche à l'Ivoirienne, c'est le déplacement qu'elle a effectué
enfin, du podium en allant vers l'autre.
Elle ne devait pas le faire.
Oui, elle ne devait pas le faire parce que ça avait l'impression comme si elle allait agresser.
En tant que vice-présidente.
En tant que vice-présidente, elle ne s'est pas maîtrisée.
Peut-être que vous laissez suicider.
Je crois que dans un parlement, on peut avoir des débats violents. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées. Et le fait de débattre peut être chaud. C'est-à-dire que ça peut entraîner même des étincelles. Mais il ne faut pas en venir aux mains. Parce qu'à un moment donné, si vous laissez le débat d'idées, vous brandissez les biceps, là, karma, ça va dans autre chose. C'est ce qu'il faut éviter dans ce Parlement-là. C'est ça qui ridiculise un Parlement. Mais sinon, pour le reste, ce que le Sénégalais a dit ce qu'il pense. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, tu prends aussi la parole et tu dis non, c'est pas comme ça. Et tu expliques, tu développes également ton argumentaire. Donc, je crois que, et c'est ce que, je crois que à une première occasion, il y a un député togolais, je crois que c'est Soklengbe. Donc, quand il a parlé, lui aussi, il a pris la parole, il a dit ce qu'il pense, et puis la vie continue. Mais, avancer vers lui, ça aurait pu, parce que s'il ne se maîtrisait pas, il aurait pu peut-être exercer, ou alors la dame aurait pu peut-être exercer une violence physique, et là, ça risque d'entraîner la bagarre physique, c'est tout ce que moi je regrette dans un parlement. Mais sinon, si les propos, ce que tu peux dire, dis-le. Tout le monde a la liberté de dire ce qu'il pense.
D'accord.
Même dans la courtoisie, bien sûr.
Justement. Est-ce que déjà, quand on prend la prise de position, même d'ailleurs, du député Sagnan, le député sénégalais Sagnan, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il dit peut-être ce que certains disent alors tout bas? Il dit haut ce que certains disent tout bas.
Oui, c'est ça. Il n'a fait que dire ce que les gens pensent tout bas, parce que tout ce qui s'est raconté, c'est que quand tu le vois parler, c'est... Il a parlé d'une façon vulgaire, mais en disant les vérités au chef d'État. Et j'ai vu le communiqué de...
Quoi, c'est un nouveau son de cloche
Parce qu'au niveau du Parlement, lorsque vous êtes des députés, vous contrôlez l'action du gouvernement, l'action des chefs d'État. Ici, ils sont dans une situation où les députés doivent s'exprimer pour corriger une situation. Donc, il s'est exprimé. Peut-être que c'est sa manière de parler qui n'a pas plu aux uns et aux autres. Sinon, il s'est exprimé, il a dit ce qu'il pense, il a dit ce que même les populations pensent de la CEDEAO. Ce n'est pas qu'il a menti. Il a dit, c'est son expression à lui. C'est sa façon de parler à lui. Et lorsqu'il l'a fait, il y a certains aussi qui lui ont parlé, qui ont donné aussi leur position pour dire ce qu'ils pensent aussi des chefs d'État. Comme Fabrice l'a dit, c'est le déplacement de cette vice-présidente-là vers ce monsieur. Il n'a fait dire que ce qu'il pense. À toi de dire, de te maîtriser et de t'expliquer et de dire qu'on ne dit pas ça. Il faut aussi corriger ton langage. Si, ne pas descendre, aller comme si tu vas sur l'arène et vous allez vous battre avec un homme. On a vu ce qui s'est passé ici au Sénégal avec les députés qui se sont battus lors d'un débat. Et ce qui s'en est suivi, on a vu. Donc, aujourd'hui, c'est la maîtrise de soi. Lorsque quelqu'un parle, laissez-lui le temps de parler. C'est sa façon à lui de s'exprimer. Il y a aussi d'autres qui peuvent le contredire, mais pas dans la violence. Les muscles ne corrigent rien. Donc,
d'accord.
Il faudrait faire tout pour calmer la situation.
D'accord. C'est parce que quand on suit la prise de position du député sénégalais Sagnan, est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est la position de l'AES qu'on retrouve alors au sein de la CEDEAO?
Non, c'est la position du peuple. C'est la position du peuple parce que lorsque vous êtes député, de la CEDEAO, vous êtes député donc des peuples qui composent donc cette CEDEAO. Heureusement qu'aujourd'hui, je crois que c'est l'anniversaire même de ce Parlement, puisque ce Parlement a été créé un 24 juillet 1993. Donc, 24 juillet 1993, donc 24 juillet 2024, ça fait 31 ans, je crois aujourd'hui, que ce Parlement-là existe. Donc, c'est l'ensemble des peuples. Donc, en prenant la parole, Et Sagnan parle donc au nom donc des peuples, au nom du peuple togolais. Et vous avez vu que même sa première sortie, et il a consacré sur la politique togolaise. Et vous avez vu qu'il y a une députée togolaise qui est là, qui est présidente de l'Assemblée nationale, qui lui a demandé, puisque quand il parlait, il citait donc le président togolais en dénonçant le fait qu'il interdit les manifestations, il a changé la constitution, tout ça. Vous avez vu que la députée qui est là, qui est la députée togolaise qui est là, je parle donc de Mémnatou, elle a repris la parole en tant que présidente, elle a dit, oui, vous pouvez critiquer, donc les chefs de l'État, mais faites-le dans le respect. Et après, qu'est-ce qu'elle a dit?
Dans la courtoisie.
Poursuivez, mon collègue, poursuivez. Voyez-vous, donc ce devait être donc la même, c'est la députée ivoirienne, comment vous l'appelez, Adjaratou
Traoré.
Ce devait être donc le même comportement, la même attitude, puisque tu es au Peshawar, tu es responsable donc de cette assemblée, tu parles dans le micro et puis elle fait donc le mouvement vert dans ce Sénégalais. Alors lorsque vous voyez un peu les biceps donc de Sanya, moi j'ai à un moment donné j'ai compris, peut-être qu'elle voulait se suicider. Peut-être qu'elle voulait se suicider. Bon, oui, parce que si elle arrive vers ce monsieur-là. Voilà quoi. Si elle arrive vers ce monsieur-là, et si jamais elle ose gifler Sanya, vous voyez que peut-être aujourd'hui.
Les gens viendront la séparer. C'est ce qu'on a fait.
Non, les gens se séparent. La preuve est que les gens l'ont séparé.
Avant que les gens le viennent, peut-être qu'elle aurait. Voilà, donc il faudrait. Que les débats se fassent, mais dans le respect. Et ce que dit Sanya, je crois qu'on le dit très souvent, hein, que c'est les présidents africains appauvrissent l'Afrique, et ils mettent donc l'argent au niveau donc des paradis fiscaux, tout ça, ça se dit. Mais le monsieur l'a dit là, et puis cette dame s'est véritablement métamorphosée, elle a même quitté là-bas pour venir, donc je ne sais pas ce qu'elle voulait faire. Donc c'est cela, mais Sanya l'a dit, hein, tout tel que moi je l'ai. Puis ce matin que vous allez devoir me souffrir comme je vous souffre, hein, et c'est pratiquement dans la même veine que Patsy Talon qui disait que vous allez en souffrir, ben vous ne pouvez rien faire. Donc ils vont en souffrir, mais bon, le monsieur est là.
D'accord, il est déjà midi, donc nous allons donner la parole aussi à nos concitoyens, nos auditeurs qui sont là et qui s'impatientent à entrer aussi en ligne pour s'exprimer ou participer à cette émission. Donc nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. Juste après, nous allons recevoir nos auditeurs. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 ou le 91 36 63 75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez participer à cette émission. Allô?
Oui. Allô?
Oui, bonjour Pelé.
Oui, ça va.
Comment vous allez?
Oui, je salue le plateau.
Oui, le plateau aussi vous salue. C'est Pelé?
Ok. Bon, à ce qui concerne Freedom Togo, ce mouvement-là, il faudrait que tout le monde doit comprendre que M. Attila Bocco, il a quitté ce pays, ça fait 20 ans. Mais s'il veut rester là-bas, c'est 30 ans, 200 ans, ça fait son affaire. Soit il négocie, il descend. Les Kofi Nyanyam, tout ça là, les trois qui sont là, et les autres, les Tipi Akadam, tous ceux qui sont en exil. Donc ils ont intérêt à créer ce groupe et pour faire un lobbying au niveau de la communauté internationale, pour dire à l'opinion internationale que tout ce qui se passe dans le pays, que la population, tous ceux qui sont dans le pays, tous ceux qui font la lutte, les partis politiques, tout ça là, il ne faut pas dire qu'ils sont épuisés, hein, qu'ils sont fatigués. Hein. C'est parce qu'ils ne veulent pas la violence qu'il n'y aura pas la violence. Donc ce qui se passe à l'extérieur maintenant, il va falloir qu'on les soutienne moralement, mais il faut qu'eux-mêmes aussi sachent que le travail se passe sur le terrain. Et il faut qu'ils fassent le lobbying à ceux qui sont sur le terrain et ils vont travailler ensemble. Et avec, s'il faut faire le lumière, voir le chef de l'État pour convoquer une assise nationale. C'était leur premier objectif. Convoquer une assise nationale. C'est ça qui est important. Merci.
Merci beaucoup, Pélé, pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Ah, décidément, il n'a pas de retour. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, allô? Bonjour.
Bonjour, Karaneka.
Comment vous allez?
Bien.
Votre nom, c'est...
Appelez-moi Saint-Jou. Je vous reprends le seul fait parmi les vivants.
Saint-Jou, allez-y.
Et il y a quelque chose qui me blesse, qui me fait mal au cœur. Je viens de demander, je viens de c'est-à-dire, comment se fait-il que l'État togolais n'arrive pas à trouver ceux qui viennent nous terroriser sur notre propre territoire? Comment se fait que nos enfants qui sont rentrés dans l'armée là, 2 ans, 3 ans, on les a laissés là-bas, on vient les tuer comme ça, hein, paisiblement. Or, l'État togolais fait tout. Quand les enfants sont sur les réseaux sociaux, et TikTok, ils cliquent et ils disent que le président de la vie a fait ceci, ce ministre a fait ceci, on les arrête, on les met dans la prison. Hein, pour garder l'avenir des enfants. Mais on n'arrive pas à trouver l'emplacement là où sont les terroristes pour rentrer sur notre territoire. Vous ne voyez pas que peut-être, en tout cas c'est bon, on arrive, hein,
que le peuple togolais ou bien la population est fatiguée de ce régime et ils ont vu quelque chose là. Ils savent ce qui se passe là-bas, mais ils ont laissé les terroristes rentrer sur notre territoire. Malheureusement, ils croyaient que s'ils viennent, c'est pour attaquer Forest, camarades là, mais c'est là. Les petites populations qui viennent tuer.
C'est votre analyse.
C'est ça qui m'énerve. Ils n'ont rien fait pour connaître le lieu où les touristes passent pour rentrer sur notre territoire. Mais il faut tout, quand les enfants parlent sur les réseaux sociaux, si même on parle sur nos téléphones, ils nous écoutent. Comment ils ne peuvent pas trouver ça, faire ça pour trouver les imbéciles qui viennent tuer chez notre territoire? Merci.
Merci, Saint-Jo, c'est votre analyse, mais il est dit quand même que le gouvernement fait aussi des efforts. 90-86-35-35. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, madame Essi.
Les djihadistes ont tué nos frères au nord. Voilà. Rip à eux et puis Babadé aux familles et aux Togolais. À nous tous, quoi. Voilà. C'est pas sérieux. Et puis voilà, je crois qu'il faut que ça s'arrête, cette histoire-là s'arrête, qui culmine en Afrique, là, surtout au Togo, c'est ça qui me concerne. Il faut que les gens pratiquent la démocratie, pour qu'il y ait moins d'injustice, pour que les biens du pays se partagent entre les fils du même pays. Et voilà, il ne faut pas appauvrir les gens, et c'est pour ça que ça se passe comme ça, voilà. Et puis, les accords doivent être, quand il y a la démocratie, les accords sont respectés. Avec les Ansardines, les MMLA, tout le reste, il n'y aurait pas ce désordre si les gens respectaient les accords. Et puis, un même regroupement avec M. Bocco, qui a servi le régime jusqu'en 2005, où il n'a pas voulu continuer. Mais il y a eu des morts quand même, près d'un millier quand même, s'il était là. Et puis voilà, il n'y a pas besoin. Il faut que les gens respectent la constitution, fassent la démocratie. Il n'y aurait pas 10 000 regroupements, il n'y aurait pas de djihadistes à qui, moi je propose qu'il faut discuter avec ces gens-là. Il faut discuter avec leur patron, quoi, pour savoir ce qu'ils veulent. C'est ceux qui veulent le partage des biens de la République, ils veulent la démocratie. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Madame Essi, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Kamara-san.
Voilà, c'est Richard, depuis Copenhague.
Là, je n'ai pas de routine, je ne sais pas si il faut parler.
Oui, allez-y. Allez-y.
Bon, je vais essayer de brosser un peu, je n'ai pas de routine. Ma question par rapport au mouvement qui serait créé depuis la fin. Je ne sais pas si c'est une escroquerie intellectuelle par rapport à ceux qui sont en Afrique. Ces opposants qui sont au Togo, ne sont-ils pas des opposants? Comment se fait-il que d'autres personnes se choisissent pour rester en exil et d'autres entre d'autres opposants au pays? Une question que je me pose tout le temps, je ne sais pas si ces opposants au Togo ne sont pas opposants. Les gens choisissent librement d'aller rester ailleurs, se dire exilés. Je ne sais pas comment ils arrivent à le faire, parce que le Togo tient tellement tout. Moi, j'ai toujours dit, ce qu'on ne peut pas me retirer, c'est ma nationalité togolaise. C'est que quitter le pays pour toujours, je préfère me donner cette mort. Mais vous êtes ailleurs, en France, et ils se choisissent entre eux. Moi qui vis en France, ils n'ont jamais associé une personne au pays. Ça veut dire que vous qui êtes au pays, vous n'êtes pas opposants. Qu'ils fassent tout possible envers leurs enfants ou quoi. Merci beaucoup.
Merci, c'est votre analyse aussi des faits. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez me contacter. Allô?
Bonjour,
comment vous allez?
Je vais...
Basile, diminuez le volume de votre poste qui est à côté de vous.
en train de discuter. Ça peut aller.
Oui, oui, ça peut aller. Allez-y.
Bon, je salue tout le monde au classement.
D'accord.
Et on va essayer d'aller comme ça. D'ailleurs, quand nous appelons là, on ne se cache pas derrière le téléphone pour vous parler. Hein.
Mais Basile,
vous nous dites qu'on n'a qu'à venir là-bas.
Basile,
oui.
S'il te plaît, nous avons des sujets dont nous avons débattu ici. Prononcez-vous sur ces sujets.
D'accord, ça je l'ai déjà dit. Pour la date, je pense que le bon blanc dit là-bas, il faut quand même que le gouvernement prenne le taureau par les cornes. Et nos compatriotes tombent là-bas de temps à autre. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, ils doivent tout faire. La sécurité de ces gens-ci doit vraiment leur tenir à cœur. Et puis, le mouvement, on n'a pas besoin d'être ici avant de créer un mouvement. Hein. Si, comme Daesh vient le dire, que je salue de passage. Et s'il n'y a pas de problème, les mouvements ne vont pas foisonner un peu partout. C'est parce qu'on a des problèmes ici. Sur eux-mêmes d'ailleurs. C'est pour cela qu'on va voir les mouvements se créer un peu partout. Là où la personne se trouve et juge important de pouvoir créer un mouvement.
Merci beaucoup, Basile, pour votre analyse des sujets discutés ici au Club de la Presse 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse. Réagissez sur des sujets débattus ici au Club de la Presse 90, 86, 35, 35. Allô? Bonjour, comment vous allez?
Ça va.
Votre nom, c'est
Hervé
depuis Vakposito. Allez-y. Merci.
Et je tiens à rappeler qu'au moins, si on veut recruter nos forces de défense et de sécurité, au moins on n'a qu'à voir côté de l'âge. De l'âge. On prend un jeune de 22 ans, 23 ans, 21 ou 18 ans, maître dans l'armée. L'armée, c'est un métier qui peut avoir le cœur et le courage. On prend nos petits enfants, on met dans l'armée, et on les laisse comme ça, on les tue comme ça. Par exemple, si vous voyez les autres pays, vous allez voir que ceux qui vont au front, ce sont des gens qui ont l'expérience et qui ont leur âge pensé, par exemple 30 ans, 28 ans, 40 ans, bon, comme ça quoi. Il ne faut pas, on envoie nos petits enfants, on les tue là-bas et après on dit que repose après, repose après, repose après, c'est facile. Hein? C'est du gâteau, tout ça là. Il y a certains qui sont là-bas, ils sont les seuls garçons sur leur, dans leur famille. Et que tout le monde regarde. Donc, il faut qu'on regarde ce côté-là, quoi.
Donc, d'accord.
C'est énervant tout ça, là.
D'accord. Merci, Hervé, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est à travers ces deux numéros que vous pouvez nous contacter. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
C'est Arma.
C'est Arma, oui.
Allez-y.
Dans un premier temps, j'aimerais adresser un message de condoléances à toutes les victimes des forces armées qui sont tombées vaillamment lors de l'attaque dernière. Et aussi présenter mes condoléances aussi bien à leur famille biologique qu'à toute l'armée. Et pour revenir un peu à la création d'un nouveau front de libération, j'aimerais dire que c'est vrai que tout Togolais, là où il vit, doit œuvrer un tant soit peu pour le mieux vivre dans son pays. Mais ce qui est un peu, c'est que quelque part, il y a une foison, il y a un foisonnement de mouvements quelque, qui sont un peu qui ne sont pas en synergie, je veux dire. Et surtout, on ne crée pas un front. Il faut que les, bon, qu'on puisse arriver à ces objectifs. Or, depuis un certain temps, on n'a pas vu vraiment quand on sent vraiment que la mayonnaise va prendre, c'est là où le front se disloque. Donc, il va falloir que les uns et les autres puissent vraiment prendre sur eux de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour la nation au lieu de chercher toujours à aller vers la confrontation.
D'accord. Merci beaucoup, Armand. Et Michel, nous avons encore quelques minutes pour prendre le dernier auditeur. 90 86 35 35. Allô?
Allô.
Bonjour.
La dernière. C'est juste pour ajouter que il faut la démocratie, effectivement, dans nos pays africains. Et je veux dire aussi que Macron roule dans Peugeot 5008 et Attal, son premier ministre, dans une Peugeot 3008. Et nos chefs d'État africains, qui sont plus riches que nos États, c'est pas normal. C'est pour ça qu'il y a des djihadistes, des regroupements, des mouvements, le désordre. Et le Soudan va disparaître sur la carte bientôt. Et Ouganda est là-bas. Le Zaï, tout ça. Nkédo, pourquoi? Ils n'ont qu'à respecter les lois des pays pour qu'on soit bien. C'est l'Afrique qui est immensément riche. Pas l'Europe, pas chez les Blancs. Voilà. Je dis bonjour à Basile, Nyamavo, Ali, Kwani, Tito, Carlos, Fabi, Alpha.
D'accord.
Je viens te payer.
Merci, Madame Issy, pour votre intervention, et c'est elle la dernière intervention pour le compte de cette émission Club de la Presse de ce mercredi. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Fabrice, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer aussi sur l'actualité telle que débattue ici au Club de la Presse. Votre réaction?
Non, je voulais revenir un peu sur les attaques pour dire que c'est vrai, sur le coup de l'émotion, nous avons perdu une bataille la dernière fois. Mais il faut dire quand même que le Togo fait beaucoup d'efforts parce que aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, tout se joue à la frontière Togo-Burkina Faso. Alors que quand vous prenez certains pays comme le Burkina Faso ou le Mali, il y en a qui ont perdu une bonne partie de leur territoire où les terroristes là font leur loi et ils égorgent les populations comme ils veulent. Comme le chef de l'État l'avait dit, c'est une guerre. Nous allons la gagner un jour. Mais pour la gagner, sachons que nous aurons des sacrifices à faire. Et je crois qu'il faudrait pas baisser les bras, il faudrait pas paniquer. Il faut juste se réorganiser pour faire face à cela. Maintenant, ceux qui pensent que c'est dirigé vers les chefs d'État, bah, qui se détrompent. Depuis qu'on fait le bilan, on n'a jamais dit qu'un ministre est mort ou un député ou un chef d'État est mort parce qu'il est attaqué par les terroristes. C'est toujours la population civile qui paye. Donc nous avons tous intérêt à collaborer pour qu'on puisse repousser ces terroristes-là très loin de nos frontières. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, on peut dire chapeau aux forces de défense et de sécurité qui ont réussi quand même à maintenir l'intégrité du territoire togolais, parce que souvent, c'est des incursions. Ils viennent et puis ils repartent. Mais ailleurs, les gens ont perdu une bonne partie de leur pays. Dieu seul sait quand ils pourront reconstituer l'ensemble du territoire.
Fabrice, je reste avec vous, pour votre note de fin d'émission.
Alors, ma note, je l'adresse, je ne sais pas à qui, mais à ceux qui gèrent les feux tricolores au niveau du plus grand carrefour de Lomé, le carrefour GTA. On ne comprend pas depuis près d'un mois et plus.
Ce n'est pas le seul carrefour.
Il y a un dysfonctionnement criard des feux tricolores à ce niveau qui complique vraiment la situation. Je donne 1 sur 10 à ceux qui sont chargés de gérer cette situation-là pour qu'ils se réveillent et qu'ils règlent au plus vite la situation.
1 sur 10, et c'est une autre objective. Alors oui, Sylvestre.
Non, en fait, moi je voulais revenir un peu sur le commentaire de notre ami de Copenhague.
Richard
qui disait que, bon, est-ce une escroquerie le fait donc de rester de l'autre côté, de créer un mouvement? Je vais peut-être lui poser la même question. Est-ce une escroquerie lui qui est à Copenhague et qui appelle très souvent ici? Ouais, je sais pas. On peut être togolais, rester partout, mais être animé donc d'une bonne volonté que le pays puisse marcher. La preuve, lui aussi, il appelle très souvent, il apporte parfois. Il fait quand même des propositions pour la bonne marche donc du pays. Si certains veulent rester pas à Copenhague mais à Paris, mais c'est également leur droit. Voyez-vous, donc il faudrait, lui aussi il est là, eux aussi sont de l'autre côté et ils apportent tous donc leur contribution pour le développement donc du pays. Maintenant, oui aussi le dimanche, oui, le dimanche, presque la moitié donc, des fêtes tricolores à Lomé n'ont pas fonctionné. Le dimanche de l'après-midi, presque la moitié. Vous êtes de Regenaoué.
Vous avez compté
passant... Oui, j'ai un peu de Regenaoué. Je vous donne de Regenaoué en passant par Tikoumé, GTA, tout ça là.
Et des cons des...
Oui, presque la moitié. Je ne sais pas pourquoi. Les fêtes tricolores donc, de Kassamlaka, eux, ils sont abandonnés parce qu'après la réhabilitation de la voie, bon, on a eu 2 semaines de feux tricolores à peine. Hein, et après, depuis là, personne ne pense donc à réhabiliter.
Le mal est que la situation perdure.
Voilà. Donc,
pourquoi tu dis, c'est 90% des feux tricolores qui ne fonctionnent pas.
90, bon, lui, il a monté un peu le pourcentage.
Voilà. Voilà votre note.
Donc, bon, ma note, c'est toujours la fédération parce que j'ai appris que Nibobé derrière est revenu depuis. Mais la signature tarde. Est-ce à dire que les choses se compliquent? C'est pourquoi j'avais dit ici qu'il faudrait qu'on signe le contrat avant de l'annonce officielle. Le monsieur, là, j'ai appris que depuis le vendredi, mais jusqu'aujourd'hui, pas d'annonce officielle en ce qui concerne son contrat. Est-ce qu'il y a des soucis? Voilà ce que je disais la dernière fois. Il faudrait qu'on fasse vite, puisque déjà en septembre, nous avons un match très capital. Donc il faudrait...
Et la note, c'est combien?
Non, eux, ils ont toujours eu un, non?
1/10.
La fédération, oui.
D'accord. Et Abbas?
Non, moi, je voulais revenir sur la compassion à faire à nos FDS qui sont en train de nous répandre et qui tombent malheureusement sur le champ de bataille. Comme on le dit souvent, il faudrait une collaboration stricte entre les forces de sécurité et aussi les populations. Parce que c'est des gens qu'on ne voit pas. Ils peuvent même être à Lomé ici, dans la capitale. Ils peuvent être partout.
Il faut dire je touche du bois. Hein? Il faut dire je touche du bois.
On ne sait pas comment ils sont. Donc, il faut être très, très vigilant par rapport à ces situations. Et lorsque nous voyons des gens qui sont suspects, qu'on informe, qu'on alerte aussi les forces de l'autorité sécuritaire pour qu'on voit ce qui se passe. Sinon, nous sommes en train de la...
C'est
des gens qui ne veulent pas se décourager et qui veulent aller font du mal à la population croyant que ils sont en train de servir Dieu parce que dans la vidéo vous les entendez crier Ah Akbar. Allah n'a jamais demandé de tuer quelqu'un, donc c'est des fous de Dieu, il faut chercher à se terminer.
D'accord, votre note de fin d'émission?
Ma note, je vais aussi la donner, si je vais ça marcher sur ma langue, je
faut
vais
pas
la
te donner blesser.
Moi je donne 0.
0 sur 10
0 sur 10 à la hauteur. Parce que
le gars, il est sévère.
Vous avez été un peu cruel. Ça, là, très
parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un mois, nous sommes en juillet, en septembre, août, septembre, là, en mois et demi, on a une compétition à faire et on ne connaît pas notre coach, notre sélectionneur national qui va convoquer les joueurs pour voir dans quelle mesure il faut les préparer. Est-ce que ça a la veille du match?
Et donc, 0 sur 10 à la Fédération Togolaise de Football. Oui. Merci beaucoup, Fabrice Pétiesi, d'être passé dans cette émission.
Merci.
Merci, Sylvestre. Merci, Abbas, d'être passé aussi dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous et d'animer cette émission avec vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Michel Tomega a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Géraud Akoucha. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain, jeudi, à 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et restez scotché alors à la radio Canal FM.